d'être à l'écoute de CFM Radio jusqu'à la demi, c'est le magazine. Bonjour à tous, c'est Jacques, bon lundi. Cette semaine, à Courtiurciel, depuis quelques jours, là, les musiques de chambre résonnent en différents lieux. Et jusque vendredi, l'occasion nous est donnée de s'intéresser plus particulièrement aux musiques slaves qui sont à l'honneur pour l'édition 2022 du Festival de Cordes sur Ciel, un festival qui se déroule à Cordes, mais aussi aux alentours. Et cette semaine, sur CFM Radio, tous nos magazines y seront entièrement consacrés. Au programme, aujourd'hui, si vous nous écoutez en direct à midi, il y a en ce moment même le concert impromptu et gratuit d'Alexandra Denisenia. C'est dans la cour du musée d'art moderne et contemporain de Cordes sur Ciel, une artiste qui joue du cymbalum, un instrument à voir, à écouter et bien évidemment à découvrir aussi. À 18h, c'est l'accordéoniste Élodie Soulard qui sera à la chapelle du Saint Crucifix et elle interprétera et parlera des œuvres de Tchaïkovski. Et puis, le grand concert de ce soir, c'est à 20h30 à l'église de Saint-Michel, Beethoven et Shostakovich par le pianiste Roman Borisov qui a donné et le concert d'ouverture, c'était samedi dernier. Il sera en compagnie du Quatuor Métamorphose avec qui nous ferons connaissance aujourd'hui. Mais avant cela, on va écouter un peu de musique. Un extrait du Quatuor Opus 59, numéro 1 de Ludwig van Beethoven qui est au programme du concert de ce soir. Voilà, c'est un des mouvements du Quatuor opus 59 numéro 1 de Beethoven qui est interprété ici par l'Ariel Quartet, une œuvre qui sera jouée également ce soir à 20h30 à l'église Saint-Michel de Cordes-sur-Ciel par le Quatuor Métamorphose, et c'est pour le festival de Cordes-sur-Ciel. Bonjour Mathilde Potier.
Bonjour.
Vous êtes violoniste au sein du Quatuor Métamorphose et également avec nous Pierre Licia Beau-Renaud, qui est le second violon de cette formation. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors dans cette formation, on retrouve aussi Jean-Baptiste Souchon au violon alto et ainsi que Madeleine Dousseau au violoncelle. Tous les deux, c'est la première fois à Cordes-sur-Ciel, je crois.
Oui, c'est ça.
Ouais, je vous ai jamais vu par ici. On vous a donné le visa pour venir pour ce festival de Cordes-sur-Ciel, et ce sera peut-être la première fois aussi que vous allez jouer avec Roman Borisov, le pianiste qui sera en votre compagnie à l'église aujourd'hui.
Oui, absolument.
Ouais. Bon, vous le connaissez de renommée, ou la rencontre se fait par le biais de ce festival?
On le connaît de renommée, et effectivement, vu son très jeune âge, effectivement, on aurait difficilement pu jouer avec lui avant.
Voilà. Dites-moi, c'est le piano qui accompagne le quatuor ou c'est l'inverse?
À vrai dire, c'est ça justement ce qui nous plaît dans la musique de chambre, c'est que c'est à certains moments le piano accompagne le quatuor. Et puis à certains moments c'est l'inverse.
Okay.
Et puis vraiment, faut pas voir le quintet comme un piano plus quatre instruments à cordes. C'est vraiment une espèce de savant mélange comme ça, où le compositeur, là, Shostakovich en l'occurrence, va se servir de tous les modes de jeu, toutes les façons de jouer qu'il a à sa disposition pour associer les instruments les uns avec les autres comme une espèce de puzzle ou de Rubik's Cube qui peut se recomposer comme ça à l'infini.
Alors dites-moi comment musicalement et artistiquement vous vous retrouvez avec Roman Borisov. Alors oui, au sein du quatuor, vous connaissez le solfège, j'imagine que lui aussi, vous savez lire des partitions, donc chacun peut bosser de son côté. Mais comment est-ce qu'on donne une énergie, ou on se met dans la même énergie avant un concert comme celui-là avec un artiste que l'on ne connaît pas du tout?
Alors, pour se trouver avec un artiste avec lequel on n'a jamais joué, on a un instrument qui est formidable, c'est le fait de jouer ensemble. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace que de parler, en général, puisque on joue quelques notes ensemble et on voit tout de suite, en fait, à quelle tradition d'interprétation lui se réfère, à quelle sensibilité nous on peut avoir. Surtout, c'est très intéressant quand on vient de pays différents comme ça. Donc nous, on joue de la musique russe, mais on est des musiciens français, donc on a tous étudié en France, lui a étudié en Russie. C'est pas du tout la même façon de faire de la musique de chambre.
Et deux écoles différentes
ouais. En fait, et voilà, et le fait de jouer ensemble, de faire ses notes ensemble, bon voilà, il y a des jeux de regard aussi qui se font, tout se fait dans le jeu.
D'accord.
Ensuite, on réajuste certaines choses. Mm-hmm. Mais c'est vraiment c'est comme je sais pas une équipe de foot, quand on recompose un peu, bah hop, on voit tout de suite un peu comment ça se passe,
comment se positionner.
Voilà,
ouais. On s'adapte, ouais.
Adaptation en prévision alors pour le concert de ce soir qui va résonner à l'église Saint-Michel. C'est à partir de 20h30 avec des œuvres de Beethoven et Shostakovich, deux grands compositeurs. Et je sais que vous, dans le Quatuor Métamorphose, vous vous intéressez aux personnages que vous interprétez. Que peut-on dire de Ludwig van Beethoven, ou en guise un peu de biographie résumée?
Alors, la musique de Beethoven, il faut savoir qu'elle est vraiment centrale dans le répertoire du quatuor à cordes. Voilà, quand on fait du quatuor, c'est difficile de passer,
ouais,
à côté de Beethoven.
Ouais.
Vraiment,
impossible.
Et pour une raison simple, c'est que c'est celui avec, donc celui qu'il appelait Papa Haydn, donc Joseph Haydn, son professeur, qui ont inventé le genre du quatuor. Et le genre du quatuor est apparu à peu près à la même époque que la Révolution française. Voilà. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que dans le quatuor à cordes, il y a quatre instruments qui ont des hauteurs différentes. Un violoncelle sera toujours plus grave qu'un violon. En revanche, c'est la seule distinction, c'est la seule hiérarchie qu'il y aura entre ces instruments. Tous les quatre instruments vont être traités à égalité. Oui. C'est pas parce que moi je suis le deuxième violon que je pourrais pas jouer des mélodies. C'est pas le premier violon qui va avoir toutes les mélodies. Parfois l'alto, qui est donc un peu plus grave que le violon, mais un peu plus aigu que le violoncelle, qui est un peu l'instrument mal aimé en général, va avoir des mélodies qui sont sublimes. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement révolutionnaire, à la fois dans l'histoire de la musique et puis dans l'histoire. Ça va avec le siècle des Lumières, avec la Révolution française.
Oui.
Et Beethoven était quelqu'un qui était comme ça. Beethoven est celui qui s'est révolté contre les cours avec lesquels il devait travailler. Ça a été un peu le premier musicien indépendant, mmh, qui se devait payer à l'œuvre et qui ne recevait pas un salaire tous les mois de la part de nobles, voilà, c'est celui qui s'est dit, moi j'ai envie de composer une sonate ce mois-ci, ben, je compose une sonate et je composerai pas de messe parce que j'ai pas envie de composer de messe. Ou vice-versa, bien sûr.
On le présente ici un peu comme le premier des rockers, hein, Beethoven. Il avait un peu un esprit rebelle, tu es d'accord avec ça, Mathilde?
Oui, tout à fait.
Un peu moins connu du grand public, par ailleurs, vous jouerez aussi le quintette pour piano et cordes du compositeur russe Dimitri Shostakovich. Que peut-on retenir de ce Dimitri Shostakovich?
Alors Shostakovich est quelqu'un qui a une vie extrêmement intéressante, puisque c'est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, donc il est né vraiment au tout début du XXe siècle, hein, donc dans sa jeunesse, c'est quelqu'un qui a baigné dans un climat extrêmement favorable aux avant-gardes, c'est-à-dire les années 20 en Russie, les premières années de la Révolution russe ont été des années qui ont été extrêmement florissantes. Pour l'avant-garde, il y avait des initiatives extraordinaires, il y avait des concerts pour sirènes d'usine, des pièces de théâtre participatives, enfin des choses qui même encore aujourd'hui nous paraîtraient complètement folles. Je parle même pas du cinéma, hein, de Meyerhold, d'Eisenstein, enfin voilà, il y a eu des choses, des initiatives vraiment incroyables. Et donc, Shostakovich est quelqu'un qui a baigné là-dedans. Et en 1936-37, si je ne m'abuse, il compose un grand opéra complètement avant-gardiste. Et manque de bol, ça ne plaît pas du tout au gouvernement soviétique. Et paf! Et à partir de là, il a vécu dans une répression terrible où ça a été très compliqué pour lui de composer. Et donc, il a toujours vécu dans cette ambiguïté-là, c'est-à-dire la tentation des avant-gardes et puis la nécessité de faire des œuvres qui convenaient à l'esprit soviétique. Pour pouvoir survivre, tout
survivre,
simplement.
Survivre, ouais. Et vivre, tout simplement, aussi pouvoir sortir de chez soi, quoi. Ouais. Mathilde, est-ce qu'il y a est-ce que toi, tu trouves des similitudes ou des différences criantes entre la musique de Beethoven ou de Shostakovich? Quand tu joues, quelle émotion l'un et l'autre te procure?
Alors, oui, c'est évidemment des répertoires très différents. Lorsqu'on joue un quatuor de Beethoven, on est quand même absolument subjugué par l'écriture qui, en fait, en elle-même, dit absolument tout. Ce qui veut dire que notre part d'interprétation, on a une marge d'interprétation, mais il suffit de tout exécuter à la lettre, et la musique est absolument sublime. L'avantage de... Enfin, je sais pas si c'est un avantage, mais lorsqu'on nous jouons un quatuor de Shostakovich, il y a une certaine fraîcheur. On a peut-être un poil plus de liberté, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus libre.
D'accord.
Voilà.
Beethoven, pas besoin de le remixer, Shostakovich, on peut y aller un peu, quoi. C'est ça que tu nous dis.
En tout cas, c'est juste, voilà, juste mon ressenti. C'est vrai qu'il y a en plus le poids des traditions, voilà, forcément, dans les compositeurs comme Mozart, Beethoven, Haydn, cette musique dite classique, même si effectivement, par exemple, les quatuors de Beethoven sont complètement révolutionnaire. Lorsqu'il les écrivait à l'époque, les violonistes disaient mais c'est injouable, je ne peux pas jouer. Ils disaient mais je m'en moque, dans 200 ans quelqu'un y arrivera.
C'est un peu aujourd'hui comme avec le métal, on s'est dit ah non, ça nous casse les oreilles parce qu'on n'est pas habitué. Donc c'est un peu la sensation que Beethoven a produit auprès des gens à l'époque, quoi. Je rappelle que le thème de l'édition 2022 du Festival de Cordes sur Ciel porte sur les musiques slaves. Est-il possible de dresser, on va dire, des généralités des musiques de chambre de cette ère géographique-là?
Ah, c'est une bonne question. Des généralités, je sais pas, qu'est-ce que t'en dis, Pierre?
Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, je pense, c'est que c'est une musique, les musiques de ces pays-là, c'est des musiques qui sont associées à un sentiment national très fort.
Oui.
C'est-à-dire
vrai,
que c'est vraiment des cultures qui se sont... Enfin, des peuples, pardon, qui se sont émancipés en grande partie par la culture.
Oui.
Voilà. Par exemple, je crois que c'est en Lettonie, il y a une tradition chorale très forte. Il y a des chorales en Lettonie, voilà, qui une musique de tradition orale qui est très 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 importante. Et dans la musique russe, c'est également quelque chose de fondamental. Ce qui peut être par exemple très significatif, c'est l'introduction de mélodies juives, par exemple, dans ce répertoire-là. Justement, quand Shostakovich écrit les poèmes sur des mélodies hébraïques, par exemple, c'est un coup d'éclat. C'est quelque chose qui était très mal vu à l'époque où l'antisémitisme était très fréquent, etc. Donc, je dirais que voilà, il y a dans l'ensemble de ces musiques, de la musique tchèque de Dvorak jusqu'à la musique russe de Shostakovich, l'idée que quand on écrit de la musique, on affirme un sentiment national, oui. On introduit oui. des mélodies populaires. Bartok, par exemple, Mathilde.
Qui... Mais c'est à lui que je pensais quand tu parlais de populaire et de populiste aussi. Mm. Je trouve que Béla Bartok, c'est l'un oui. des meilleurs exemples, celui qui a tout vraiment mélangé cette musique populaire avec ce qu'on connaissait de la musique classique ou la musique populaire classique à l'époque. Est-ce que c'est pas un peu moins le cas dans les pays latins, on va dire ça, c'est-à-dire les Chopin et tout ça, est-ce qu'ils ne rentraient pas un peu plus dans le cadre, dans le moule ?
Alors, rentrer dans le moule, je sais pas. Après, effectivement, là, par exemple, dans le quatuor de Beethoven qu'on va jouer ce soir, le quatrième mouvement, donc le mouvement rapide, le mouvement final, est dit sur un thème russe. Mmh. Mais en fait, Beethoven n'avait jamais mis les pieds en Russie, il avait acheté un
recueil
avec des mélodies, etc.
Il s'en est inspiré.
Voilà.
Voilà. C'est vrai que dans le quatuor à cordes, on a un peu ce choc des cultures, surtout dans la musique de Joseph Haydn, qui était vraiment le maître de Beethoven et le grand ami de Mozart, qui est que Haydn est quelqu'un qui donc vivait en Autriche-Hongrie, et donc juste à côté de lui, il avait la Bohème, oui. et donc tous les peuples, toutes la musique de tradition tzigane qu'il y avait juste à côté. Et quand on joue un quatuor de Haydn, on en joue un demain d'ailleurs, hein, le quatuor de l'Alouette, c'est intéressant de voir que il y a à la fois quelque chose d'extrêmement élégant qui fait référence à l'aristocratie viennoise, etc. Et en même temps, quelque chose de complètement débridé dans la tradition tzigane. Voilà. Donc il y a quand même ce mélange des cultures, cette volonté d'aller voir autre chose, de brasser les traditions, etc. C'est extrêmement intéressant.
L'idée, c'était d'apporter un peu de musique populaire dans les plus beaux salons hein, de Vienne. Ils n'avaient pas idée. C'est un peu comme si, en même temps, c'est ce qui se passe. Hein, à l'Élysée, on organise la fête de la musique avec la musique techno aujourd'hui. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Pierre, Alicia Boronneau et Mathilde Potier sont les violonistes du quatuor Métamorphose, une formation de musique de chambre. Ils sont nos invités aujourd'hui sur CFM Radio. Ils seront en concert ce soir à 20h30 à l'église Saint-Michel de Cordes pour le festival de Cordes sur Ciel, en compagnie du pianiste Roman Borisov, Beethoven et Shostakovich au programme, et notamment cette composition de Dimitri Shostakovich pour piano et quatuor. Thank you. faire réviser un peu mes invités qui auront à jouer cette œuvre de Chostakovitch tout à l'heure à l'église Saint-Michel de Cordes-sur-Ciel. C'était un extrait du troisième mouvement qu'on appelle le Scherzo du quintet pour piano et cordes opus 57 de Chostakovitch, interprété ici par le quatuor Elmire et Julien Gernet au piano. Et avec nous dans les studios de CFM Radio, nous sommes toujours en compagnie de Mathilde Potier et de Pierre Lucia Beau-Renaud, les violonistes du quatuor Métamorphose. Tiens, on va s'intéresser un peu plus à votre formation, à votre groupe. Comment il s'est formé ce quatuor, Mathilde?
5 ans maintenant, et c'était vraiment parce qu'on avait la passion du quatuor à cordes. Voilà, on s'était dit, on a fini nos études et on a envie de se lancer dans le quatuor. Voilà, donc on s'est retrouvés un peu entre copains et on s'est dit allons-y. Et en fait, c'était pas du tout à la base. Enfin, voilà, on savait pas du tout si ça allait marcher, si ça allait nous plaire, etc. Et puis on n'avait pas trop conscience de.
De tout ce que ça implique.
Oui, le quatuor, c'est un sacerdoce.
Ah ouais? À quel niveau?
C'est extrêmement riche. Voilà. En fait, c'est quelque chose d'incroyable, mais c'est quelque chose de totalement prenant. Mmh. C'est, et puis c'est une aventure humaine au-delà d'être juste,
un groupe de musique.
Oui,
quoi.
Voilà. Ouais. Donc, voilà. En fait, c'est les 4 sensibilités différentes, 4 personnalités très différentes. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant, c'est d'être différent. Mmh. Et voilà, c'est un travail, extrêmement exigeant, extrêmement précis. Donc voilà, on s'était lancé un peu sans savoir à quoi on allait
être confronté. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Vous vivez tous au même endroit ou vous bossez à distance pas mal, Pierre?
Alors nous sommes 3 à être basés à Paris. D'accord. Et Madeleine, notre violoncelliste, vit encore à Salzbourg, donc en
D'accord,
Autriche.
Ouais.
Mais nous nous retrouvons
ouais, régulièrement pour bosser. pour bosser. Alors quand on dit quatuor, on devine que vous êtes 4 hein, sur scène. Oui. L'instrumentation, c'est donc 2 violons, en l'occurrence vous 2, Pierre et toi. Et puis un violon alto ainsi qu'un violoncelle. Alors Pierre nous a expliqué en première partie un peu quelles étaient les différentes tessitures, mais j'aimerais que l'on revienne un peu dessus. Alors vous êtes tous les 2 violonistes. Mm-hmm. C'est toi, Mathilde, le premier violon?
Oui, mais effectivement, voilà, comme disait Pierre, c'est une question de répartition.
Ouais, toi tu es premier, voilà. Et Pierre est deuxième.
Je joue en général un peu plus aigu, mais d'accord. C'est à peu près ouais. Tout ce qui...
Donc tu es un poil plus aigu que Pierre, par exemple.
Voilà.
D'accord. Et vous êtes tous les 2 plus aigus que, oui. Que Jean-Baptiste.
C'est ça.
Qui, lui, est au violon alto.
C'est ça. Et qui, lui, fait le lien, en fait, entre le violoncelle, qui est vraiment grave, qui a souvent un rôle de basse, comment dire, ce qui veut dire que Madeleine nous fait voilà, les harmonies, la structure, même, c'est un pilier, en fait. Moi, j'ai souvent un peu des mélodies un peu aiguës avec Pierre. Pierre est quand même encore un peu plus harmonique que moi, ce qui veut dire qu'il fait vraiment la couleur du son. Vraiment, c'est lui qui fait la couleur avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, voilà, arrive à faire un peu l'équilibre entre les violons aigus et Madeleine qui joue plus grave.
Bon. Et tout à l'heure, vous serez avec un pianiste, hein, oui. Roman Borisov, avec qui vous allez interpréter ses œuvres de Beethoven ou de Shostakovich. Oui. Alors, on le disait, un Beethoven interprété par un quatuor, quoi de plus normal. Par contre, Shostakovich, j'ai cru voir qu'il n'était pas forcément dans votre répertoire. Vous venez de le rajouter, vous venez de le travailler, celui-là, Shostakovich.
Alors, en fait, le quintet, c'est effectivement la première fois qu'on le joue dans cette formation. Pierre et Madeleine l'avaient déjà joué ensemble il n'y a pas longtemps. Et nous, le quatuor Métamorphose, nous avions déjà joué le 8e quatuor, à savoir qu'il y en a 15 qui ont été composés.
D'accord.
Et par exemple, le premier nous avons joué hier est très peu interprété. C'est une œuvre un peu de jeunesse. Et c'est dommage parce que c'est absolument magnifique. Mais c'est vrai que voilà, on est aussi. On a un tel répertoire. Il faut aussi arriver à prendre le temps de tout, bosser, tout découvrir. Ouais.
Mais en tout cas, ça, c'est un peu votre credo, hein, c'est de donner à entendre des œuvres que l'on n'a pas forcément l'habitude, hein,
oui.
Surtout en quatuor. Vous faites aussi pas mal de médiation.
Oui.
Tu m'expliquais ça, Mathilde, en off. Ouais. Autre truc, un peu ce qu'on fait là, hein, c'est de parler de musique, tout simplement avec les personnes qui ne connaissent pas forcément ce style de musique, cette musique classique.
En fait, pour nous, c'est vraiment très, très important parce que malheureusement, le quatuor à cordes, c'est quand même un genre qui est encore un peu cloisonné, ce qui veut dire que vous allez rarement à des concerts de quatuor à cordes parce qu'on sait pas trop, on n'écoute pas trop, même nous dans nos études qui pourtant on est extrêmement spécialisés, on ne fait pas beaucoup de quatuor, on en parle, voilà, c'est quand même en France en tout cas quelque chose qui est pas extrêmement populaire.
D'accord.
Et donc pour nous c'est vraiment un challenge et c'est vraiment très important de pouvoir faire beaucoup de médiation dans des voilà, dans des écoles, dans des quartiers où les gens n'ont jamais, ne savent même pas ce que c'est. Et c'est vraiment très important. Et ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois, on se rend compte que il suffit de venir auprès des gens et tout le monde, voilà, les gens adorent et on se rend compte que la seule limite qu'on a, c'est de se dire que c'est
de se motiver. De se motiver. Alors, je voudrais terminer par quelques mots sur un programme que vous proposez et que vous semblez chérir. C'est Une pièce bien à elle.
Oui. Alors, c'est vrai que c'était un programme donc exclusivement féminin.
Mmh. Voilà, donc c'est un programme en fait qui évolue sans cesse,
oui.
Puisque en fait si vous allez voir effectivement le programme sur notre site internet, tous les 6 mois ce sera pas les mêmes œuvres, parce que donc il y a des œuvres qui restent, par exemple le Quatuor de Germaine Taillefer qu'on adore interpréter, qui est de plus en plus souvent joué.
C'est vrai.
Et mais voilà, on découvre toujours comme ça de nouvelles pièces. C'est aussi un travail qui nous intéresse, ce travail entre guillemets d'exhumation de, oui, pièces de compositrices. Bon, déjà il y a effectivement le fait que c'est important comme ça de remonter comme ça ces pièces de personnes qui n'étaient pas jouées, hein, parce que c'était des femmes. Et puis il y a aussi la dimension de la redécouverte, puisque pour la plupart, par exemple, nous avons fait un concert il y a quelques mois à Paris où nous avons joué ce programme exclusivement féminin, mais la plupart des pièces, on les redécouvrait, on ne les avait jamais jouées et il n'existait pas d'enregistrement. Donc c'est en fait on n'a pas de référence, parfois même les partitions, les éditions, c'est des choses qui sont, on a un peu retrouvé, parfois c'est des manuscrits qui ont été trouvés à la BNF, parfois, oui, c'est, donc il y a aussi un travail de reconstruction, mm-hmm, de l'œuvre elle-même. Et ça, c'est forcément un quatuor de Beethoven, on a 150 versions, on a des éditions qui sont super bien fichues, des partitions où on connaît toutes les variantes entre le manuscrit, la première édition, oui, la deuxième édition, l'édition américaine. Alors là, pour le coup, pas du tout, on a trois mesures griffonnées à la main et on se débrouille, quoi.
Mais pas que, ce qui est aussi intéressant, ce que dit, pour ajouter à ce que dit Pierre, c'est qu'on fait aussi on s'intéresse aussi à la composition actuelle, en fait. Ce qui veut, mm-hmm, dire que dans notre programme, on a aussi une pièce d'une compositrice iranienne, Darvishi, qui est vraiment, c'est une pièce fantastique. D'ailleurs, c'est une pièce assez méditative, d'une petite dizaine de minutes,
qu'on a enregistré d'ailleurs, ouais, sur YouTube, hein, c'est
d'accord,
c'est,
ouais,
c'est presque de l'ASMR, enfin, c'est très agréable.
Donc c'est exhumer effectivement des partitions qui n'ont jamais été jouées ou très peu jouées, et aussi encourager la création actuelle. Voilà.
Et de jouer peut-être des œuvres de personnes qui sont en vie.
Oui, tout à fait.
Aussi, ouais, ça, au moins on peut échanger, parce que Beethoven, on peut difficilement, ouais, lui poser encore des questions. Eh bien, peut-être un jour on aura l'occasion d'écouter une pièce bien à elle par le Quatuor Métamorphose, ici à Corte-sur-Ciel. En tout cas, ce soir, on pourra vous écouter à l'église de Saint-Michel, c'est à 20h30, avec au programme Beethoven et Shostakovich, et puis et également sur scène, Roman Borisov, un pianiste qui nous vient de Russie. Le festival de cordes, c'est jusque vendredi à Corte-sur-Ciel et alentour. Et on va poursuivre la rencontre avec les différentes formations, les groupes, les artistes qui sont invités tout au long de la semaine sur CFM Radio. Merci beaucoup à Mathilde Poutier et à Pierre-Licia Boronneau d'être venus dans notre studio aujourd'hui. Je vous souhaite un bon festival à tous les deux.
Merci beaucoup.